Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte sans agressivité les rouages de l'économie mondiale. En Inde, depuis plusieurs mois, les paysans ont investi les grandes villes du pays pour protester contre la réforme du système agricole du Premier ministre Narendra Modi. Des milliers d'entre eux campent même aux portes de New Delhi et il y a quelques jours, des dizaines de milliers de policiers étaient mobilisés pour faire face à cette manifestation. Pourquoi un tel affrontement entre le gouvernement et les masses paysannes indiennes? Dans quel état est le système agricole indien? Les paysans sont-ils les laissés pour compte de l'économie de ce gigantesque pays? Et quel impact a ce mouvement sur la place de l'Inde dans les échanges agricoles internationaux? Voilà les questions qui seront soulevées au cours de cette émission et que je poserai aux trois invités que je vous présente maintenant. Bonjour Damien Bazin.
Bonjour Jean-Pierre Boris.
Damien Bazin, vous êtes maître de conférence en économie à l'Université Côte d'Azur et chercheur au laboratoire de l'École de droit économique à Nice, d'où vous nous parlez. Vous avez publié en 2019 chez L'Harmattan un livre qui s'appelle « La justice environnementale ». Et cette année, chez Routledge, un éditeur universitaire britannique, vous allez publier un livre intitulé « Sustainable Human Development, a Capability Approach » qui est coécrit avec Jérôme Ballet et Jérôme Pellinque. Avec vous dans cette émission, Frédéric Landy, bonjour.
Bonjour.
Frédéric Landy, vous êtes professeur de géographie à l'Université de Paris-Nanterre et chercheur associé à l'Institut français de Pondichéry en Inde, dont vous avez été le directeur ces quatre dernières années. Je précise que vous êtes en ligne de Pondichéry. Vous êtes l'auteur du livre « L'Inde, du développement à l'émergence ». Et je termine ce tour de table par quelqu'un qui est en studio, à côté de moi, exceptionnellement. Bonjour Thierry Pouche.
Bonjour.
Thierry Pouche, vous êtes économiste, responsable du service études et prospectives des chambres d'agriculture de France, chercheur associé au laboratoire Regard de l'Université de Reims-Champagne-Ardennes et membre de l'Académie d'agriculture de France. Votre dernier livre s'appelle « La Chine au risque de la dépendance alimentaire » aux presses universitaires de Rennes. Il remonte à 2017, ce qui, somme toute, est assez récent. Enfin, je vous précise que nous aurons des reportages, bien sûr. Nous retrouverons au fil de cette émission les correspondants de RFI en Inde, Côme Bastin et Sébastien Farcy. On part tout de suite au contact des paysans indiens en colère. Cela fait près de 3 mois que des dizaines de milliers d'entre eux campent à différents points d'entrée de New Delhi afin de réclamer le retrait de 3 lois. Celles-ci permettent une plus grande libéralisation du secteur agricole. Le gouvernement assure que cela permettra d'offrir de nouvelles opportunités à des paysans très pauvres, mais ces derniers craignent d'être la proie des grandes sociétés agroalimentaires. À la fin du mois de janvier dernier, donc il y a à peine 2 semaines, une énorme manifestation a eu lieu à New Delhi à l'occasion de la Journée de la République. C'est un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs de notre correspondant Sébastien Farcy.
Arjun Tomar est monté sur un tracteur rouge et roule au pas au milieu d'une centaine d'autres tracteurs et de leurs remorques. Le cortège s'élance avec fracas de la frontière est de New Delhi.
Cela fait 2 mois que nous tenons le siège ici. Nous faisons venir notre nourriture depuis notre région d'Uttar Pradesh. Nous sommes autosuffisants.
Ce jeune agriculteur de canne à sucre est remonté contre cette réforme qui permettra aux entreprises privées de passer des contrats d'exploitation avec les fermiers.
L'entreprise pourra passer un contrat pour 7 ans et pendant cette durée, c'est l'entreprise qui décidera ce qu'on devra planter. La terre ne nous appartiendra plus et on ne pourra plus rien faire contre cela.
Un peu plus en amont du cortège, Tirpal Singh, un paysan quinquagénaire, est assis dans une remorque avec une vingtaine d'autres manifestants.
Je viens tous les jours depuis 2 mois. On alterne pour qu'il y ait toujours quelqu'un qui s'occupe des champs. Pour cette manifestation, 8 camions sont venus avec 125 personnes.
Ce qui l'inquiète le plus est la réforme qui permet maintenant aux entreprises de stocker les produits agricoles pour une durée illimitée.
Ils nous achèteront le blé quand les prix seront bas et les revendront au plus haut. Eux feront des profits et nous resterons pauvres. En 6 ans, mes revenus ont déjà été divisés par 2.
Le consortium des agriculteurs indiens, une association de recherche sur le monde agricole basée dans le sud du pays, voit quant à lui cette réforme d'un œil positif. Son président Chengal Reddy espère que ses compagnies investiront dans le secteur.
Quand je passe un contrat avec une entreprise agroalimentaire, cela m'oblige à améliorer la qualité et le rendement. Ces compagnies vont donc aider à moderniser l'agriculture indienne. Cela a fonctionné dans le secteur du lait.
Le développement réussi de la laiterie est en effet un cas d'école en Inde, mais aussi une exception, car il a été obtenu par le regroupement de plus de 100 000 coopératives par la société Amul, ce qui permet aujourd'hui aux producteurs d'obtenir de bons prix. Un modèle qui sera donc très difficile à reproduire.
Un reportage Éco-d'ici, Éco-d'ailleurs signé Sébastien Farcy, Frédéric Landy. On entend ces protestations des paysans indiens, mais contre quoi protestent-ils? Quelle est cette réforme que veut le gouvernement de Narendra Modi?
C'est un peu technique, hein. Il y a trois lois assez complexes, mais pour tout dire, vous l'avez bien résumé, il s'agit d'accentuer la libéralisation de l'agriculture qui traîne, si je puis dire, depuis bientôt trois décennies. Pour l'essentiel, ce qui me paraît très important, ça a été dit, c'est la fin des plafonds au stockage qui vise depuis l'indépendance, hein, et même avant, à limiter les risques de spéculation de la part... Ouais. De gros négociants.
On dit libéralisation, est-ce que cela veut dire que l'agriculture indienne est encadrée en ce moment très sévèrement par des règles fixées par l'État, par une administration? Est-ce que c'est une agriculture nationalisée?
Non, ce n'est pas une agriculture soviétique, mais disons que les négociants sont assez largement encadrés, comme je l'ai dit. Et l'autre, il y a plusieurs angles d'approche, mais quelque chose de très important qui est menacé, du moins selon les manifestants, ce sont les prix garantis par l'État qui sont définis en début de campagne, notamment pour le blé et pour le riz, et qui concernent avant tout la zone du Punjab, qui est extrêmement rebelle. Alors ces prix garantis ne sont pas du tout menacés officiellement selon la loi, le gouvernement en jure ses grands dieux. Il n'empêche que ce qui est important, c'est que les marchés réglementés dans lesquels se font une bonne partie des achats de l'État, au moins dans la région du Nord-Ouest, autour du Punjab, ces marchés vont perdre leur monopole. Et donc, certains disent que s'ils perdent leur monopole, ils ne vont plus être rentables, ils vont fermer, et du coup, les achats à l'État ne seront plus possibles, alors même que ce gouvernement achète souvent 100% du blé, voire du riz, qui est commercialisé dans ces régions autour de Delhi.
Que sont ces marchés réglementés, Damien Bazin?
Alors, ces marchés réglementés, il faut comprendre que ça fonctionne. Il y a une revendication qui est assez globale. C'est les trois lois qui sont adoptées par Modi. Il s'agit des Farm Bills. Et schématiquement, l'enjeu, c'est la libéralisation, comme on a dit, du secteur agricole. Et la fin des prix garantis par le Parlement indien peut être comprise en théorie comme une aubaine, moi je pense, pour les libéraux. Théoriquement, les agriculteurs peuvent vendre leurs produits à n'importe qui maintenant, c'est-à-dire en dehors des marchés agricoles réglementés par l'État. Mais en réalité, c'est se priver, je pense, d'un filet de sécurité. La fin des prix garantis, c'est aussi une remise en cause du pouvoir des régions, comme ça a été dit. Bon, en même temps, c'est pas si tranché, parce qu'il y a 7600 mandis.
Les mandis, c'est les marchés réglementés, c'est ça?
C'est ça, mais c'est pas si énorme en réalité, parce que lorsqu'on recourt aux mandis, il y a des externalités négatives, comme on dit en économie. Ça veut dire que ça implique pour les gens de se déplacer sur de longues distances, parce qu'il faut y aller dans ces marchés. Il y a de la corruption, ça il faut le dire quand même, et les prix subventionnés sont quand même à contextualiser au travers de la Révolution verte des années 60.
Donc, va d'abord rester sur les mandis, si vous voulez bien, Damien Bazin. À quoi ça ressemble, un mandis? C'est un enclos, c'est quoi?
Non, un mandis, c'est un marché de gros. En fait, l'Inde comporte 28 États, vous le savez, avec une gouvernance propre, et chaque État divise son territoire géographique en zones. Et chaque zone est administrée par un APMC, comme on dit, donc comité de marché pour les produits agricoles. Ces APMC gèrent les marchés de gros, donc les mandis, et la ZPMC délibèrent sur les taxes et la vente à l'achat, et les agriculteurs écoulent leur production avec un intermédiaire sous licence de l'État, et cet intermédiaire revend aux enchères aux industriels. Le problème, c'est à chaque fois que les produits transitent de région à région, ça génère autant de taxes. Et la logique du gouvernement, si on supprime les mendis, on supprime les taxes et on obtient des prix homogènes. C'est ça.
Mais si on supprime les mendis, on supprime pas les régions pour autant.
Non, on supprime pas les régions pour autant. Mais l'idée, c'est que Modi veut avoir des prix homogènes. Et donc, c'est ça l'idée. On veut court-circuiter les mendis pour qu'on puisse justement avoir des prix clairement homogènes et à la baisse.
C'est une bonne idée, Thierry Pouche, selon vous, de vouloir harmoniser les prix au niveau du pays entier ?
Si on suit certaines expériences étrangères, ça peut se concevoir. Il y avait dans l'Union européenne, par exemple, historiquement, ce souhait de d'harmoniser les prix entre les États membres. Donc là, dans un pays qui est constitué d'autant de régions et qui, pour revenir sur la question de la politique agricole, n'a pas de politique agricole fédérée, ça varie d'un État à un autre. Donc avec une population aussi importante, si les prix alimentaires varient d'un État à un autre, ça peut occasionner effectivement des disparités d'accès à l'alimentation. Donc on peut comprendre d'une certaine façon ce projet, même s'il y a d'autres aspects derrière, et qui se situe d'une certaine façon, Frédéric Landy l'a rappelé, dans la continuité de ces trois dernières décennies où les gouvernements ont quand même, malgré la position de l'Inde à l'OMC, ont toujours cherché à démanteler au moins partiellement la politique agricole.
Frédéric Landy, pourquoi est-ce que les paysans refusent ces réformes ?
Oui, juste quelques petites tractions à ce qui a été dit.
Oui, allez-y.
Comme l'a dit Thierry Pouche, il ne faut pas parler de régions. Enfin, il y a des régions en Inde, bien sûr, mais il y a des États. L'Inde est une fédération avec 28 États qui ont tous des politiques agricoles, dépendant bien sûr des directives de New Delhi pour une grande partie, mais selon la Constitution, ils ont tout à fait compétence en matière agricole. Et donc, on a un jeu qui ressemble un petit peu, toute chose étant égale par ailleurs, à celui qui se passe entre la France et Bruxelles, par exemple. Et par ailleurs, je suis pas trop d'accord avec la question de l'harmonisation des prix, parce que là encore, l'Inde est énorme, c'est grand comme l'Europe des 15 en termes de superficie. Et un des problèmes, justement, c'est que ce prix garanti pour le riz, ce prix garanti pour le blé, et qui est parfois effectif, mais en effet pas toujours, il est défini unique pour tout le pays, alors même que les coûts de production sont extrêmement variables selon les régions. Donc un des argumentaires des opposants, ce serait bien sûr de garder ce prix garanti, mais aussi de le faire varier selon les régions pour qu'il soit plus incitatif pour les agriculteurs. Alors par contre, effectivement, ce que veut le gouvernement, c'est intégrer l'Inde avec un seul marché qui réponde aux lois du marché avec des prix correspondant à la loi de l'offre et de la demande. Et c'est sûr qu'il y a beaucoup à faire étant donné les obstacles physiques, numériques, sociaux qui permettent la circulation des indices permettant de définir les prix d'une façon qui correspondrait aux lois de l'offre et de la demande.
Alors, à vous entendre, tous les trois, l'Inde ne produirait que du blé et du riz. C'est quand même un peu caricatural.
Non, pas du tout.
Voilà, justement, la question, c'est que c'est qu'il y a 23 produits pour lesquels ces prix garantis sont définis, mais qu'en fait, il n'y a que le blé, le riz, la canne à sucre, parfois d'autres produits, mais occasionnellement, dans certains États, pour lesquels ce prix est vraiment effectif. Et puis, ça a été dit, bien souvent, on vend, même au mandi, au marché réglementé, à un prix inférieur au prix officiel. Donc, on est en complète illégalité. Donc, c'est pour ça que je voudrais terminer là-dessus. Les mandis, en fait, à mon avis, la lettre de la loi, elle n'est pas si catastrophique, parce que vous avez déjà, sur les 28 États, vous en avez déjà 18 qui avaient supprimé le monopole des mandis. Vous avez des États où ils n'ont jamais existé, vous avez des États où les mandis ont été supprimés, comme au billard. Ce qui compte plus, c'est l'esprit de la loi. C'est cette libéralisation que sentent bien les agriculteurs et que, pour beaucoup, ils refusent.
Thierry Pouche, là, vous réagissiez à ma question.
Moi, je voulais juste ajouter que sur les soutiens par les prix, il n'y a pas que ça. Il y a aussi d'autres formes d'interventionnisme. Il y a toutes les subventions aux engrais et à l'énergie. Il y a tous les programmes alimentaires qui, quand même, concernent 2/3 de la population. Et puis, il y a tout un tas de dépenses qui sont effectuées sur l'irrigation. Donc, il faut voir comment la réforme va se concentrer ou sur les prix ou si elle va toucher aussi ces autres formes de subventions. Et comme ça a été rappelé, l'Inde ne produit pas que du blé et du riz, même si en matière de riz elle est en position de force avec des pays comme le Vietnam et la Thaïlande, mais il y a aussi sa position de premier producteur mondial de légumineuses, hein, c'est-à-dire pois, haricots, lentilles. Il y a aussi sa montée en puissance sur les produits laitiers et la viande bovine qui la positionne quand même maintenant sur les marchés mondiaux, surtout en viande bovine. On y reviendra certainement en matière d'échanges internationaux. Il y a la canne à sucre qui la positionne au second rang mondial, et puis il y a toutes les productions agricoles non alimentaires comme le coton qui représentent quand même quelque chose d'important, même s'ils ont été dépassés ces dernières années par la production américaine.
Thierry Pouche, est-ce que vous diriez que l'Inde aujourd'hui est une grande puissance agricole et exportatrice ?
Oui, quand on regarde le classement des 10 principaux exportateurs mondiaux de produits agricoles et alimentaires, elle est au 8e rang. Juste devant la Russie. Donc c'est aujourd'hui une nation qui a, au gré des années, au gré des progrès réalisés, occupe maintenant une place assez importante. En viande bovine, par exemple, même si il s'agit essentiellement de buffles, hein, elle partage finalement le leadership avec le Brésil selon les années. C'est soit le premier, soit le deuxième exportateur. Elle peut exporter vers la Russie, vers le Vietnam, vers certains pays du Moyen-Orient aussi. Donc on voit qu'elle se positionne, et en légumineuses c'est un petit peu pareil. Maintenant il y a des exportations, le sucre elle exporte aussi, et puis en fonction là aussi de l'évolution de la production, des surplus disponibles qui sont évidemment liés à la population indienne mais aussi aux aléas climatiques, la production laitière peut occasionner un débouché sur l'extérieur.
Jusqu'à présent, on a présenté cette agriculture indienne comme exportatrice, grande puissance agricole, avec des prix soutenus par l'État, avec des systèmes de subventions directes et indirectes. Frédéric Landy, Damien Bazin, les paysans, ils s'en tirent très bien. Si on en croit tout ce qui est dit à l'heure actuelle, les paysans indiens n'ont aucune raison d'être insatisfaits de leur sort.
Mais si, justement.
Alors, qui répond ? C'est
Damien.
Damien, c'est... allez-y.
Alors déjà, il faut savoir que d'où vient cette révolte, hein ? Géographiquement, ben c'est le Punjab, c'est l'Haryana, c'est l'Uttar Pradesh. Mais qu'est-ce qu'ils veulent ?
Donc c'est des régions proches plus ou moins de New Delhi.
Oui.
L'Haryana, c'est près du Nord. C'est la région de New Delhi.
Tout à fait. Mais en fait, qu'est-ce qu'ils veulent ? On peut voir le problème au niveau micro, si vous voulez. Les paysans veulent déjà ne plus être endettés. Je pense que c'est le principal. Et veulent aussi que Modi tienne ses promesses de 2014. C'est-à-dire promesse de doubler leur revenu en 2022. Il va pas y arriver. Les paysans veulent des prix agricoles plus élevés et des infrastructures en eau. Mais le problème, c'est que les nappes phréatiques, c'est-à-dire l'eau qui alimente les puits et autres cavités en eau potable, ne se renouvellent plus depuis à peu près 2017. Ça, c'est le premier point au niveau micro. Au niveau macro, tout d'abord, il s'agit d'un ras-le-bol du libéralisme, hein. La question, c'est de savoir si ce ras-le-bol est agricole ou plus profond, plus structurel. Et au niveau conjoncturel, il y a un véritable chamboulement, hein, dans les pratiques, la routine, les habitudes. Et d'habitude, les agriculteurs, les petits paysans apportent leur récolte sur les mandis, on l'a dit, hein, les marchés réglementés, et ces récoltes sont vendues à l'industrie agroalimentaire. Ils veulent garder ça, ils veulent rester dans cette routine. Ça rassure tout le monde. Et au niveau structurel, il faut quand même que le gouvernement entende qu'il y a de la pauvreté, quand même.
Alors, pourtant, on va revenir sur ce point-là. Laissez-moi rappeler aux auditeurs de RFI qu'ils écoutent Écho d'ici, Écho d'ailleurs, que nous sommes réunis autour de la situation de l'agriculture indienne avec trois invités. Thierry Pouche, qui est ici en studio à Paris, Damien Bazin, qui est économiste également et qui est à Nice, et Frédéric Landy, qui nous parle depuis Pondichéry, où il est chercheur associé à l'Institut français. Damien Bazin, je vous ai interrompu au moment où vous abordiez la question de la pauvreté des paysans, qui semble être quand même une cause criante de mécontentement.
Oui, mais en plus de ça, c'est un paradoxe. Pourquoi ? Parce que l'Inde, c'est un mastodonte, hein, Thierry l'a dit, en termes de production, en termes de volume agroalimentaire, et 80% des agriculteurs vivent sous le seuil de pauvreté. Donc, je voudrais insister quand même là-dessus. Derrière la pauvreté, il y a la souffrance, et ça, on le dit pas assez. En économie, on parle toujours de bien-être. Foutaise. Il faut parler de souffrance. Je veux dire par là qu'il y a des dégradations physiques, morales, hein, des paysans. Les paysans se suicident. Et pour les philosophes comme Ricoeur, Mécène, qui va nous intéresser tout à l'heure, c'est de la privation de capacités de base. Ces dégradations physiques et morales, elles sont très concrètes, hein. C'est des suicides qui sont liés à l'endettement. 75% sont endettés. Donc, les revendications, elles portent là-dessus. C'est-à-dire que moi, je pense que le dénouement actuel des événements, il va pas être très heureux, hein.
Frédéric Landy, poursuivez ce que disait Damien Bazin sur la misère des paysans, leur souffrance.
Ce qu'on pourrait ajouter, hein, c'est que structurellement, il y a deux problèmes. Le premier, directement économique, c'est que le soutien à l'agriculture, ça a été dit, ça se fait par des subventions aux intrants, engrais chimiques, irrigation, etc. Et puis par ces prix garantis. Mais très souvent, ces prix en fait sont en dessous des cours mondiaux, et du coup, il a été calculé même par des économistes très libéraux comme Ashok Gulati que l'aide à l'agriculture indienne, elle n'est pas positive, elle est négative au regard des standards de l'OMC. Donc ça, c'est
ça veut dire que ce sont les paysans qui financent le reste de l'économie indienne, c'est ça ?
En tout cas, qu'ils sont taxés et non subventionnés au total. Et puis le deuxième point, le plus simple en fait, hein, dont on n'a pas trop parlé finalement, c'est la taille des exploitations. Hein, c'est-à-dire que la taille moyenne, c'est 1 hectare, hein, et que, bien heureux, ceux qui ont déjà de la terre. Ça ne prend pas en compte tous les ouvriers agricoles qui sont extrêmement nombreux. Donc au final, vous avez quelque chose qui a été bien étudié par Bruno Dorin du CIRAD et du centre du CSH de Delhi.
Qui est à New Delhi, lui. Il est à New Delhi.
En fait, en termes de productivité de la terre, en termes de rendement, l'agriculture indienne est tout à fait dans des rangs très, très honorables, puisque c'est vrai que vous récoltez 3 à 4 tonnes de grains par récolte, donc c'est moins qu'en France, par exemple, mais vous avez 2 récoltes par an grâce au climat chaud. Donc au total, la productivité de la terre par hectare, elle est comparable à celle de la France. Le problème, c'est la productivité du travail, la productivité par actif, parce qu'au lieu que vous ayez un agriculteur qui a plus de 60 hectares de moyenne maintenant en France, eh bien, il n'en a qu'un seul, voire pas du tout pour les ouvriers agricoles. Donc là, vous voyez, vous avez un énorme problème qui traduit, en fait, plus fondamentalement encore, peut-être, l'absence de diversification économique des campagnes, le fait que un tiers des... disons 80% presque des ruraux sont des agriculteurs. Qu'on a encore... Alors les chiffres varient, 120, 130, 140 millions d'exploitations agricoles, et que ce chiffre, contrairement à plein d'autres pays de la planète, ne diminue pas ou très peu, ça dépend des sources. Hein, et donc le salut des campagnes ne viendra pas de l'agriculture, mais pour l'instant, celle-ci demeure la colonne vertébrale, comme disent les Indiens, de ces espaces ruraux.
Alors je vous redonnerai la parole, Thierry Pouche, après ce reportage, parce qu'on retourne au contact des paysans. La gronde des fermiers s'est accentuée depuis les affrontements avec la police lors de la fête nationale le 26 janvier dernier. Voilà donc 3 mois qu'ils encerclent la capitale, New Delhi. On parle là de centaines de milliers de paysans, mais comment s'organise la logistique d'un rassemblement aussi grand et aussi long dans la durée? Écoutez ce reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Com Basta.
Les agriculteurs parlent désormais de république autonome plutôt que de manifestation, Les fermiers campent en effet sur des kilomètres le long des voies express qui mènent à la capitale. Cela fait beaucoup de bouches à nourrir, mais un système de rotation a été mis en place.
Mon frère et mon père sont venus ici pendant que je travaillais à la ferme. Aujourd'hui, c'est mon tour de manifester pendant qu'ils produisent à l'arrière pour ravitailler les manifestants en nourriture.
Comme ce fermier, ils sont nombreux à arriver chaque jour, le tracteur rempli de céréales et de légumes. Ces réserves sont ensuite acheminées vers les langars, des cuisines communautaires et gratuites.
Aujourd'hui, nous préparons des lentilles avec des légumes. Nous sommes ouverts 24 heures sur 24. Les provisions viennent des États voisins, du Punjab et de l'Haryana. Nous servons plus de 10 000 repas par jour dans cette cantine.
À Tikri, tout est bénévole et on trouve des dortoirs géants de 1000 places, des laveries, des stands de massage pour les marcheurs fatigués et même une école. Les manifestants font face à des obstacles mais ne se laissent pas décourager. À défaut de réseau internet, Mukesh Kularia édite une gazette papier baptisée Trolley Time pour tous les participants.
Le gouvernement fait tout son possible pour empêcher les gens de rejoindre le mouvement. Les horaires des trains ont été modifiés, des tas de routes sont bloquées par la police qui contrôle les véhicules. Ils ont aussi ordonné aux stations-service de ne pas fournir d'essence aux tracteurs. Et puis pendant 4 ou 5 jours, on n'avait carrément plus accès à l'eau.
Ces immenses rassemblements et les confrontations avec la police ont aussi changé le fonctionnement de l'économie locale. Un commerçant du coin témoigne.
Voilà 3 mois que les fermiers sont installés à quelques mètres de ma boutique. C'est bien, car ça nous amène plus de clients. D'un autre côté, les barrages de police compliquent notre approvisionnement, mais je soutiens leur combat.
Le gouvernement se dit ouvert au dialogue, mais refuse toujours de retirer ces lois qui libéralisent le secteur agricole. L'affrontement semble donc parti pour durer. Et les manifestants s'en donnent les moyens logistiques.
Un reportage signé Combastin. Frédéric Landy, je vous avais posé la question du niveau de vie des paysans à la suite de ce que disait Damien Bazin. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus? Parce que quand Damien Bazin parle de suicide massif, en fait, et de souffrance, qu'est-ce que ça veut dire au jour le jour dans la vie de ces paysans?
Ça veut dire que, alors il y a des paysans riches, hein, mais c'est vrai que la plupart de ceux-ci vivent extrêmement chichement, avec des standards de vie, des normes de vie qui jusque-là étaient très frustres. Hein. On ne se plaint pas en Inde de dormir sur une natte et de manger par terre, c'est la norme bien souvent. Mais avec un appétit de consommer qui en plus va inciter à s'endetter. On ne s'endette pas que pour acheter un tracteur, entre parenthèses, très peu d'agriculteurs ont les moyens d'avoir un tracteur, mais on s'endette aussi pour avoir un smartphone et puis pour marier sa fille dans de bonnes conditions. D'ailleurs, entre parenthèses...
En achetant de l'or, c'est ça ?
Oui, mais le problème, c'est que de plus en plus, il y a des agriculteurs qui rencontrent des problèmes pour trouver une femme. On est un peu comme en France, c'est-à-dire que le statut d'agriculteur, qui jusque-là était extrêmement vénéré, hein, c'était l'époque de Gandhi, etc. Il y a 30 ans, vraiment tout le monde en Inde connaissait, savait plus ou moins ce qu'était un épi de riz, un épi de blé, etc. Désormais, ce statut a complètement plongé et le métier d'agriculteur est extrêmement répulsif. Alors, il y a une autre chose qu'il faut souligner sur le niveau de vie de ces agriculteurs et plus généralement disons, la moitié de la population indienne, hein, qui se suicide de plus en plus aussi. Hein. Il n'y a pas que dans les campagnes que le taux de suicide augmente. C'est la place des aides alimentaires qu'a évoqué Thierry Pouche. C'est-à-dire que ce système, c'est pour ça que la mobilisation est très forte, pas seulement chez les gros agriculteurs comme on pourrait attendre du côté du Punjab, mais aussi les ouvriers agricoles. Et parce que le gouvernement met en place un système de redistribution des stocks qui sont constitués par les achats de l'État pour soutenir les prix, ces fameux prix planchers qui sont des prix d'intervention. Et ces stocks sont ensuite redistribués au niveau des différents États avec des systèmes de prix, des quantités, des quotas variables selon ces mêmes États. Et c'est bien souvent la moitié de la consommation d'un ménage qui provient de ces stocks de l'État. Au Tamil Nadu, là, à côté de Pondichéry, vous avez 20 kilos de riz qui est donné complètement gratuitement par mois à quasiment tous les ménages. Donc c'est extrêmement important. Et du coup, vous voyez, tout s'enchaîne. Le prix plancher, je le répète, il n'est pas officiellement annulé du tout dans la loi, mais on sent bien qu'il est en sursis. S'il n'y a plus de prix garanti, il n'y aura plus d'achat par l'État. Il n'y aura plus donc de stock de sécurité publique et il n'y aura plus de redistribution de grains, ce que depuis des années souhaite le gouvernement actuel, qui essaie de transformer ce système de distribution physique qui est extrêmement lourd, très corrompu, etc., en de simples aides sociales, des virements bancaires, comme il y a en France les aides bancaires. Sauf qu'en Inde, qui a un compte en banque, qui sait le lire, qui a accès à Internet, à combien de kilomètres se trouve la première banque du village paumé d'Inde centrale, tout ça, ce sont des problèmes que nous, on ne rencontre pas dans nos pays développés, mais qui sont encore extrêmement importants, même dans cette Inde émergente, peuplée de milliardaires, dont les médias nous évoquent les exploits.
Thierry Pouche.
Moi, il me semble qu'on est arrivé pour l'Inde à un tournant, parce que c'est un peu une trajectoire qui se pose dans la plupart des pays lorsqu'on parle de l'agriculture. Que fait-on des petites exploitations agricoles? Où en est-on et que veut-on faire en matière d'autonomie des agriculteurs vis-à-vis de l'aval, c'est-à-dire des organismes de collecte et des transformateurs? Je pense que l'enjeu, il est aussi là, c'est-à-dire qu'avec autant de paysans, il est probable que on souhaite, du côté du gouvernement, si on veut jouer un rôle sur la scène internationale, y compris sur le secteur agricole et alimentaire, il y a une restructuration de l'agriculture qui doit être menée. C'est, à mon avis, c'est peut-être là qu'est le nœud du problème, parce que il s'agit donc d'augmenter la taille de ces exploitations, donc d'opérer une certaine forme de concentration. Si les prix ne suivent pas des petits exploitants qui sont endettés, ça a été rappelé, qui sont souvent même d'ailleurs aux mains d'usuriers ou d'entreprises de pesticides qui leur accordent des prêts contre les intrants. Tout cela fait un cocktail assez explosif avec des agriculteurs qui vont quitter la profession d'année en année avec une agriculture qui sera un peu plus concentrée et qui sera en mesure de finalement, avec les intentions du gouvernement, de contractualiser avec des entreprises de l'aval, ce qui pose évidemment un problème parce que lorsqu'il y a une contractualisation entre un acteur qui fournit des denrées brutes et un transformateur, on se pose toujours la question de savoir quel est le retour sur la valeur ajoutée en fait. Donc le partage de cette valeur ajoutée entre les acteurs dans les filières va nécessairement poser un problème. Et il y a un autre aspect, c'est aussi en matière de normes de production, la question est posée, y compris en Inde, dans un jeu international dans lequel l'Inde veut affirmer sa puissance. Donc on est là finalement dans une problématique très ancienne. Que fait-on de l'agriculture dans un système économique qui souhaite s'internationaliser?
Damien Bazin, cette agriculture indienne, elle a progressé au cours des dernières décennies, en particulier depuis ce qu'on a appelé la révolution verte. Je pense qu'il faut évoquer ce tournant. Thierry Pouche nous dit que l'agriculture indienne est face à un tournant, qu'elle doit se moderniser, qu'elle doit se révolutionner si elle veut affirmer sa présence dans le commerce agricole mondial, mais il y a eu un premier tournant il y a quelques décennies. Qu'est-ce que c'est que cette révolution verte?
La première révolution verte, c'est tout simplement des années 60, ça visait l'indépendance alimentaire. Donc le gros problème qui découle de cette révolution verte, la première et la deuxième, peu importe, c'est que les fermiers doivent, et j'insiste, s'endetter pour acheter des entrants, comme l'a dit
Mais
Thierry.
Mais avant de nous dire les problèmes qu'elle crée, peut-être nous dire ce que ça a été.
C'est arriver à l'indépendance alimentaire, c'est arriver à ce que l'Inde ne soit plus un pays issu du Moyen-Âge, mais soit compte dans... D'ailleurs, cette révolution verte a hissé l'Inde au niveau des BRICS. Donc, c'est une très,
alors,
très,
les
très
BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud.
C'est ça. Donc, du coup, ça permet à ce pays de faire partie des grands. Des grands de ce monde. Donc ça, c'est
mais
vraiment...
Ça, est-ce que ça veut dire en même temps que les Indiens mangent tous à leur faim aujourd'hui?
Non, je pense pas. Ça veut pas dire ça. Ça veut dire que l'Inde compte sur la scène internationale. Mais en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette révolution verte, elle a translaté le problème économiquement. C'est que on arrive à ce que l'agriculture ne soit plus En fait, ça a été un produit d'appel, si vous voulez. Maintenant, on est dans l'idée que l'agriculture a été dépassée par tout ce qui est service informatique, tout ce qui est service aux entreprises. En fait, l'Inde se distingue maintenant par l'importance des services vers l'exportation, c'est-à-dire où elle a un faible coût de main-d'œuvre et bien formée. C'est donc les services informatiques, c'est donc les services aux entreprises, business process outsourcing, et le secteur IT-PBO, bah, c'est quand même 22 milliards de chiffre d'affaires.
Alors, IT-PBO, IT, c'est...
IT Services, c'est les services informatiques.
Voilà, et PBO ?
Et PBO, c'est les services aux entreprises. 22 milliards de chiffre d'affaires, 700 000 emplois. C'est Tata qui est derrière, hein. C'est Infosys, c'est Wipro, c'est quand même des grosses multinationales indiennes.
Le groupe Reliance de...
C'est le groupe Tata Group.
Oui, mais il n'y a pas que Tata.
Non, il y a aussi Infosys qui est un groupe indien, et il y a Wipro qui est une multinationale. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la main d'œuvre, elle est très très faible. En Inde, elle est plus faible qu'en Chine et en Asie du Sud-Est. Donc du coup, on a tout intérêt à mettre en place des IDE. C'est très clair. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, j'aimerais insister davantage sur les problèmes que cette révolution verte à générer que les avantages. Parce que les problèmes, on les a en pleine face à l'heure actuelle. Les problèmes, c'est la pauvreté, c'est l'endettement.
Alors justement, on va reparler de cette pauvreté avec ce reportage de Sébastien Farcy. On l'a dit au début de cette émission, ce que les paysans défendent en particulier, c'est un prix minimum garanti dont la réforme veut les priver. Ce prix minimum garanti concerne une vingtaine de récoltes de produits, mais en réalité, la plupart des agriculteurs touchent beaucoup moins à cause de la corruption ou des défauts des infrastructures locales. Une situation qui plonge beaucoup de producteurs dans une situation financière dramatique, comme a pu le constater Sébastien Farcy, qui s'est rendu dans l'état de Maharashtra, dans l'ouest de l'Inde, pour ce reportage Éco-d'ici, Éco-d'ailleurs.
Namdev Yadav encourage de ses cris ses deux bœufs aux longues cornes pointues. Les animaux traînent courageusement un bout de bois arqué qui sert à labourer son champ. Cet agriculteur du village de Jadavvadi, situé à 300 km au sud de Bombay, ne possède qu'un demi-hectare de terre où il fait pousser des arachides. Il travaille donc d'arrache-pied pour avoir deux récoltes annuelles et malgré cela, il ne gagne qu'environ 100 euros par an.
Nos coûts ont augmenté, les semences, les machines que nous louons pour écorcer les graines et surtout le prix des engrais a doublé en quelques années. Avant, nous avions des bêtes et leurs excréments servaient d'engrais. Ce n'est plus possible maintenant car il n'y a plus assez de champs en jachère pour les faire paître. Nous achetons donc de l'engrais. Nos coûts augmentent, mais les prix des récoltes, eux, ne bougent pas.
L'État est censé assurer un prix minimum d'achat de récoltes de 26 produits, dont les arachides de Namdev. Mais comme l'explique Rajendra Sapkal, un agriculteur voisin, ils sont loin de toucher ce tarif.
Nous ne pouvons pas aller porter notre récolte au marché où ils l'achètent au prix officiel, car pour cela, il faudrait louer un véhicule et payer des pots de vin aux policiers qui nous arrêtent en route. Donc des intermédiaires viennent nous l'acheter. Et eux, ils apportent des balances défectueuses qui nous font perdre 15% du poids. Puis ils affirment que la qualité du grain n'est pas bonne et réduisent encore le prix de 15 à 20%, et c'est à prendre ou à laisser.
En Inde, 9 cultivateurs sur 10 possèdent moins de 2 hectares de terre et ils sont donc vulnérables à ce marchandage. Bharat Patankar, le président de l'organisation rurale Shramik Mukti Dal, prône une démarche collective.
Les intermédiaires qui viennent acheter la récolte vont la revendre à un autre, puis un autre. Dans cette chaîne, le prix est multiplié près de 20 fois. Pour limiter ces interférences, les agriculteurs doivent donc se rassembler et essayer de vendre leurs produits directement aux consommateurs des villes. Leurs frères ou amis vivent dans ces villes, donc ils peuvent établir ces liens. Cela est une tâche difficile, mais elle leur ferait gagner beaucoup plus.
Le gouvernement assure qu'il a doublé en 6 ans les quantités de ses achats de blé et de riz pour soutenir les agriculteurs, mais cela ne semble pas suffire à freiner la paupérisation des campagnes.
Un reportage Éco-d'ici, Éco-d'ailleurs, signé Sébastien Farcy. Thierry Pouche, quelle réaction à ce reportage, à ces problèmes que soulignait Damien Bazin préalablement?
J'ai un peu l'impression, dans la continuité de ce que je disais juste avant le reportage, et il est intéressant parce qu'on voit bien qu'il y a encore beaucoup de petites structures finalement qui sont tournées vers des marchés locaux ou vers l'autoconsommation. Donc on a un peu l'impression que le tournant qui est en train de s'opérer en Inde pourrait éventuellement, je parle sous le contrôle des deux collègues, mais vers une sorte de dualisme, si vous voulez, entre des petites structures qui pourraient éventuellement survivre avec une orientation plutôt locale et un écoulement local de leur production, et puis une agriculture qui serait beaucoup plus modernisée, avec une intégration dans un système économique et de transformation alimentaire beaucoup plus étoffé et qui serait tournée vers l'international. Donc voilà, bon, je me trompe peut-être, mais il me semble qu'à écouter les reportages, là, c'est assez intéressant de voir que si la survie des petits paysans est subordonnée à un prix garanti qui va être difficile à maintenir s'il y a cette réforme, et de toute façon, comme ça a été dit dans le reportage, il peut y avoir un premier prix qui permet à l'exploitant de survivre, mais ce prix peut être abaissé par celui qui achète finalement. Donc on voit bien qu'il y a des choses qui sont en train de se passer sur une agriculture qui peut-être ne peut plus exister sur le mode antérieur. Et on va voir comment les résistances vont s'organiser et jusqu'à quel point elles vont être admises pour essayer de faire tenir cette agriculture, puisque ces agriculteurs, quand même, l'agriculture, c'est 13% du produit intérieur brut, et vous avez environ 50%, peut-être même un peu plus de la population indienne, qui vit directement ou indirectement de l'agriculture. Donc il y a un enjeu considérable, un enjeu à la fois intérieur, évidemment, entre les équilibres rural et urbain, et puis évidemment un enjeu de l'ouverture internationale de l'Inde, avec un secteur qui pourrait constituer un levier de sa puissance.
Damien Bazin, vous sembliez dire tout à l'heure que ce front du refus des paysans indiens, il allait durer longtemps et que vous étiez assez pessimiste sur l'issue de ce mouvement. Qu'est-ce que vous vouliez dire précisément ?
En fait, oui, moi je pense que c'est quand même assez... Je suis pessimiste parce que c'est un dialogue de sourds, en fait, cette histoire. Et je vois pas comment on pourrait s'en sortir, parce que d'un côté on a une stratégie du gouvernement qui est très claire, elle est idéologique, elle est libérale, et en fait ils veulent tout simplement, me semble-t-il, remettre au goût du jour la loi des débouchés, la fameuse loi des débouchés en économie, hein. Et du coup c'est vraiment quelque chose qui va
cette loi elle est... Qu'est-ce qu'elle dit en deux mots
En deux mots, c'est la loi de Jean-Baptiste Say, hein, c'est un économiste classique du 18e. Pour moi, c'est une allégorie du libre-échange. Alors, cette loi, elle dit quoi? Elle dit que toute offre crée sa propre demande. Autrement dit, tout ce qui est produit doit être consommé. Très clairement, le gouvernement Modi veut élargir les débouchés, et pour élargir les débouchés, faut susciter l'intérêt des firmes multinationales. Autrement dit, il faut ouvrir les IDE. Entrant.
Les IDE, ce sont les investissements étrangers directs.
Ah oui, pardon, excusez-moi. Oui. Ce sont les investissements directs et étrangers. C'est acquérir des actions ou des parts de propriété dans une entreprise étrangère afin d'y exercer une influence. Voilà ce que c'est. Concrètement, c'est soit de la création d'entreprise, c'est soit du rachat d'entreprises existantes, c'est soit de la prise de participation dans le capital pour moins 10%, pour au moins 10%, parce qu'en dessous, de 10%, on appelle ça des investissements de portefeuille. Donc, les IDE, pour finir, ne sont rentables que si le coût des travailleurs est faible. Et c'est le cas de l'Inde. Donc, du coup, je suis pessimiste, parce que si Modi veut faire entrer les IDE, il va faire en sorte que le coût du travail reste faible.
Frédéric Landy, vous partagez ce point de vue ?
Oui, on peut le nuancer aussi, c'est-à-dire qu'il s'agit d'investissements étrangers, mais il s'agit aussi peut-être surtout d'investissements indiens. Reliance, dont on a parlé, n'est pas que dans la téléphonie ou dans l'informatique, c'est tout simplement aussi dans l'agroalimentaire et la distribution de détail. Et on sait bien que Modi et les politiciens d'une façon générale en Inde ont leurs accointances avec les hommes d'entreprise dont parfois ils partagent la même origine régionale, comme c'est le cas pour Adani et Ambani.
Adani et Ambani sont les deux milliardaires très proches de Narendra Modi, le Premier ministre.
Oui, et qui sont du Gujarat. Mais pour revenir à la révolution verte et à la question des prix garantis et aussi à la dualité évoquée par Thierry Pouche, je pense que ce qu'il faut voir, c'est que la révolution verte, donc dans les années 60, c'était des efforts pour intensifier l'agriculture, plus d'investissements par hectare et donc plus de production par hectare, avec trois outils majeurs, les semences améliorées, l'irrigation et les engrais chimiques, le tout subventionné. Et à côté de cela, vous avez un quatrième mousquetaire, ces fameux prix garantis, parce que un ancien président de la République l'a cru, travailler plus pour gagner plus, ça ne marche pas à tous les coups, il faut pouvoir avoir la sécurité de vente à des prix qui rapportent un certain profit. Alors c'est tout ce modèle qui est tout à fait contemporain de la politique agricole commune européenne, avec un peu les mêmes outils d'un certain point de vue, qui est en crise depuis belle lurette, et je dirais qu'on est un petit peu dans la situation de la PAC d'avant 1980.
De la politique agricole commune européenne, la PAC.
Voilà. Et étant donné que actuellement, on l'a bien compris, le statu quo, personne n'en veut. Le gouvernement, mais aussi les protestataires, puisque ces mandes dits, ces prix garantis, on l'a bien compris, soit ça ne marche pas bien, soit ça n'a jamais marché.
Qu'est-ce qu'ils voudraient, s'ils ne veulent pas du statu quo, ces paysans qui protestent, que veulent-ils ?
C'est-à-dire que vous avez tout un bloc de gros agriculteurs dans certaines régions, hein, donc avec un déterminisme social et régional très particulier, qui seraient prêts tout à fait à jouer le jeu de la libéralisation. Alors, est-ce que Narendra Modi est vraiment libéral ? Hein, on peut en douter, c'est quand même quelqu'un qui est élu au suffrage universel, et on a dit l'importance des agriculteurs parmi les électeurs. Alors c'est vrai qu'on est populiste, donc on peut tabler sur autre chose que des arguments vraiment économiques, mais je pense qu'il est suffisamment rusé pour ne pas être libéral à outrance. Alors pour cela, il y a soit des outils populistes, soit il y a aussi tout un système qui est en train d'émerger. Ça, je pense que c'est un espoir. C'est de faire démarrer des systèmes d'aide directe, donc découplés, hein, comme en Europe.
Ce serait une issue à ce dialogue de sourds.
Alors, ce serait une issue vers un système relativement libéral qui permettrait le développement de gros agriculteurs. Et à côté de ça, on peut rêver. Vous avez toutes les voies agroécologiques qui sont la solution, je pense, si on peut en trouver une, pour tout ce petit paysanat qui correspondrait effectivement à de nouvelles logiques, peut-être avec des circuits courts, avec tout ce qui émerge également en Europe et qu'on connaît, et qui, en fait, pourrait assez bien se développer, au moins dans des zones pas trop pauvres, pas trop reculées, parce que l'agriculteur indien pauvre, il est comme Monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir. Hein, c'est un agriculteur bio, presque sans le savoir, parce qu'il utilise très peu d'engrais chimiques, très peu de pesticides, etc. Donc il y a énormément de potentiel si l'on veut, mais encore faut-il construire des filières, encore faut-il qu'il y ait un marché pour cela, étant donné que le consommateur aussi est pauvre, et donc il n'a pas les moyens d'acheter des produits considérés comme bio et qui seraient de prix trop élevés pour lui.
Merci Frédéric Landy, merci Damien Bazin, merci Thierry Pouche. Cette émission est maintenant terminée. Il y aurait matière à en faire une seconde, on verra, peut-être un jour prochain, une semaine prochaine, une seconde émission sur cette économie rurale indienne qui est un tournant. Vous pouvez nous réécouter en nous podcastant via l'application Pure Radio de votre smartphone. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.
Tout à l'heure sur RFI.
Alors on dit quoi ?